Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 267 du podcast Je peux pas, j'ai business. Encore une fois et comme toujours, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler de pourquoi certains entrepreneurs n'arrivent pas à vendre et à trouver des clients alors qu'ils font tout ce qu'il faut, ou en tout cas qu'ils ont l'impression de faire tout ce qu'il faut, parce que concrètement et factuellement, si ces entrepreneurs-là n'arrivent pas à vendre, c'est que quelque part, il y a, excusez-moi l'expression, une dans le pâté. Je me censure si jamais il y a des enfants qui écoutent dans la voiture, n'est-ce pas? Donc, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui coince. Et on va essayer de décortiquer et de comprendre quoi dans cet épisode de podcast. Et avant de commencer, j'aimerais prendre une petite minute pour remercier l'un ou l'une d'entre vous qui a pris le temps de laisser son avis et une note sur sa plateforme d'écoute. Et aujourd'hui, on dit un grand merci à Karev Ma, qui a laissé le commentaire suivant. Merci pour ton énergie, tes conseils, tes astuces et tes coups de boost. Ça fait une éternité que je voulais te remercier. Mais comme j'écoute dans ma voiture, j'oubliais, je ne prenais pas le temps. C'est enfin fait. Merci à tous ceux qui, même quand ils écoutent dans la voiture en faisant autre chose, après vous revenez sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Non, je crois que Google Podcast n'existe plus, je sais plus. Bref, en tout cas, merci de prendre à chaque fois le temps et la peine de me laisser vos commentaires. Encore une fois, je les lis tous. Voilà, je referme ma parenthèse et c'est parti pour l'épisode du jour. On va parler de vente et on va parler de pourquoi est-ce que certains n'arrivent pas à vendre alors que d'autres y arrivent presque tout de suite. Ça peut être assez rageant. Vendre, pour moi, c'est un petit peu le problème de tout entrepreneur qui ne vit pas encore pleinement de son activité. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est vrai que client plus vente égale chiffre d'affaires. Jusqu'ici, je pense que tout le monde va être d'accord. Et donc, du coup, généralement, quand on démarre un business, il y a un peu deux catégories de personnes. Il y a les entrepreneurs pour qui tout semble décoller très vite tout de suite, c'est-à-dire dans les semaines ou dans les mois qui suivent le début de leur activité. On se dit, mais what the fuck, ils ont tout compris, ils ont une recette miracle du succès que moi je n'ai pas, etc. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui vont galérer pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, et au bout de 4 ans, toujours avoir des difficultés à vendre, toujours avoir des difficultés à trouver des clients, et qui vont se dire, qu'est-ce que je fais mal? Ou à côté de quoi est-ce que je suis passée? Est-ce que les autres ont compris quelque chose que moi je n'ai pas compris? Et c'est vrai que cette deuxième catégorie d'entrepreneurs, c'est à elle que j'ai envie de m'adresser aujourd'hui et de dire, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans ce profil, vous êtes lancé depuis un certain temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années, et vous trouvez toujours aussi galère de trouver des clients, vous avez l'impression vraiment de pédaler dans la semoule et vous avez cette sensation désagréable d'être passé à côté de quelque chose ou alors d'avoir un aspect que vous n'avez pas compris ou alors d'avoir une stratégie que vous n'avez pas comprise malgré le fait que vous avez littéralement l'impression d'avoir tout essayé, de tout faire comme il faut. Avec cet épisode, on va mettre les mains dans le cambouis et vraiment essayer de comprendre ce qu'il se passe. J'ai repéré 6 éléments récurrents chez les entrepreneurs que je vois qui ont du mal à vendre. Et c'est ces 6 éléments qu'on va décortiquer aujourd'hui dans le podcast. Mais avant ça, 2 petites choses. La première, c'est que je vous parlais de cette catégorie d'entrepreneurs qui décollent tout de suite, du jour au lendemain, dans les semaines, voire même les mois qui suivent le début de leur activité, où vous en avez l'impression qu'ils ont tout compris, qu'ils ont débloqué un cheat code auquel vous n'avez pas eu le droit ou auquel vous n'avez pas accès. Revenons un petit peu sur la notion de ce qu'on appelle le overnight success, c'est-à-dire le succès du jour au lendemain. Généralement, ce qu'on ne comprend pas, c'est que derrière un succès fulgurant du jour au lendemain, il y a énormément des années de travail dans l'ombre. J'ai 4 exemples à vous donner pour ça. Premier exemple, Taylor Swift. Taylor Swift, ça fait 3-4 ans qu'elle explose, qu'elle fait vraiment des tournées littéralement à guichet fermé. Sauf que Taylor Swift aujourd'hui a 34-35 ans et qu'elle a commencé à produire de la musique à 16 ans. Donc pour tous ceux qui pensent que Taylor Swift est un overnight success, ça fait plus de, 20 ans, 15 ans que sa carrière est lancée. Il a fallu 14 ans, 15 ans pour que ça explose. Deuxième exemple, l'humoriste qui retourne TikTok en ce moment, Matt Riff. Je ne sais pas si vous connaissez Matt Riff, humoriste américain, mais à se taper les fesses par terre, donc ça, on adore. Pareil, explosion du jour au lendemain sur TikTok à la fin du confinement, donc plutôt entre 2022, il a vraiment débarqué sur TikTok. Succès phénoménal, spectacle sur Netflix, tournée à guichet fermé, ultra connu pour son jeu avec la foule, ses impros, etc. Sauf que Matt Riff, il a commencé le stand-up, il avait 15 ans et aujourd'hui, il en a 27. Donc, ce n'est pas un succès du jour au lendemain, un overnight success, c'est juste quelqu'un qui bosse depuis qu'il a 15 ans et qui, 12 ans après, a pu enfin exploser sur les réseaux sociaux. Troisième exemple, Pareil, une nana qui cartonne en ce moment, qu'on voit de partout, Madison Beer. Madison Beer, on aime ou on n'aime pas, mais en ce moment, elle est jugée comme étant l'une des femmes les plus belles, les plus sexy de la planète. Pareil, c'est une autrice, compositrice, elle fait de la musique, etc. Et pareil, Madison Beer, elle a commencé en 2015. Et elle n'a explosé à titre planétaire qu'en 2023-2024. Dernier exemple, un humoriste français, Cocorico, Redouane Bougueraba. J'espère que je n'écorche pas son prénom, ni son de famille. Pareil, Redouane, il s'est lancé en 2015. Depuis 2015, il fait du stand-up. Mais c'est avec son spectacle On m'appelle Marseille en 2022 qu'il a retourné Internet et qui aujourd'hui fait qu'il est l'un des humoristes les plus appréciés en France. Donc en fait, il y a plein d'exemples, plein de personnes, et je fais exprès de citer des énormes figures, des gens très populaires, mais parce que ça nous montre que toutes ces personnes qui explosent et toutes ces personnes, on se dit waouh, elles ont réussi du jour au lendemain, là où moi je galère depuis toutes ces années, bah bien souvent c'est des personnes qui travaillent dans l'ombre depuis des mois, voire même des années. Et pareil, j'ai plein d'entrepreneurs autour de moi qui ont aujourd'hui des centaines de milliers d'abonnés par exemple sur Instagram, et on a l'impression que ça a été ces deux ou trois dernières années qu'ils ont explosé, mais en fait quand on parle avec elles, ce sont des personnes qui sont sur les réseaux depuis par exemple 10 ans. Mais qui avant ont testé d'autres niches et qui n'ont pas forcément fonctionné, ou qui étaient dans la même niche mais où ça ne décollait pas, et qui ont décollé du jour au lendemain, on va dire ces 2-3 dernières années. Donc la première chose et mon premier message, et pourquoi je vous dis ça, c'est que parfois on peut avoir l'impression que ça marche pour les autres mais pas pour nous, mais on oublie que les autres, généralement, ils ont quelques années d'avance sur nous, ou alors ça fait aussi longtemps qu'ils galèrent, et qu'il n'y a pas de recette miracle de succès où certaines personnes ont trouvé le cheat code dès le départ, et que vous, vous avez été laissé en galère. Pas du tout. Deuxième chose que j'ai besoin que vous compreniez avant qu'on commence à aborder ces fameux 6 éléments récurrents qui font que quelqu'un n'arrive pas à vendre, c'est que vendre, c'est complètement décorrélé, enfin en tout cas 90%, de la qualité de votre travail et de votre offre. Votre capacité à vendre et le fait que vous vendiez ou non n'a presque, je dis bien presque, aucun rapport avec la qualité de votre offre. Ce n'est pas parce que vous êtes une bonne personne et que vous faites du bon travail que vous allez bien vendre. Je répète, ce n'est pas parce que vous êtes une bonne personne et que vous faites du bon travail que vous allez bien vendre. Parce que je distingue vraiment, je mets une énorme barrière entre la qualité de votre travail et votre capacité à vous vendre. Parce que par définition, votre client, tant que vous ne lui avez pas vendu votre offre, il ne peut pas en juger de la qualité. Et il ne peut pas acheter parce que c'est de la bonne qualité, parce qu'il n'en a aucune preuve, il ne l'a pas eu entre les mains, il ne l'a pas testé, il ne l'a pas expérimenté. Donc en fait, un entrepreneur qui n'arrive pas à vendre, ce n'est pas un entrepreneur qui fait du mauvais travail. Si vous n'arrivez pas à vendre, ce n'est pas que vous faites du mauvais travail, ou que vous êtes une mauvaise personne, ou que vous êtes indigne, ou que vous n'avez rien compris. C'est juste que vous ne savez pas vendre. Et vendre, c'est une discipline. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est une compétence. Ok ? Donc, première chose à retenir, méfiez-vous de ce qu'on appelle les « overnight success ». Les succès du jour au lendemain, parce que ça en est rarement. Deuxième chose, comprenez que la qualité de votre offre, la qualité de votre travail et la qualité de vous en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur, n'a rien à voir avec votre capacité à vous vendre. Ok ? Allez, du coup, c'est parti. Quels sont les 6 éléments récurrents que je remarque chez toutes les personnes qui n'arrivent pas à vendre ? Ça ne veut pas dire que si vous en avez un sur les 6, vous êtes dans la merde. Ça veut juste dire que repérez les choses qui peuvent potentiellement vous parler, cherchez à vous questionner sur chacune de ces catégories en vous demandant est-ce que ça résonne, est-ce que j'ai l'impression que oui, là, il y a peut-être un truc à travailler, ou est-ce qu'au contraire, vous dites non, ça c'est bon, pas de souci de mon côté. Catégorie suivante. La première raison qui fait qu'un entrepreneur a du mal à se vendre. Ce qu'il propose n'est pas clair. Je répète, ce qu'il propose n'est pas clair. C'est le fameux positionnement, la fameuse promesse, l'offre. Et, spoiler alerte, si ce n'est pas clair pour vous, ce que vous faites et ce que vous proposez, ça ne peut pas l'être pour les personnes en face. En fait, en résumé, il faudrait que vous soyez capable aujourd'hui d'expliquer à tonton Ferdinand ou tata Janine en quelques phrases votre métier, ce que vous faites. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer ça à quelqu'un qui est complètement néophyte et qui ne comprend rien, vos clients, potentiellement, ne peuvent pas comprendre non plus. Vous devez pouvoir, en quelques mots, quelques phrases, expliquer à n'importe qui ce que vous faites. Car si vous n'en êtes pas capable, vous n'êtes pas capable de vendre. Parce que les gens ne vont pas comprendre et, comme dit l'adage, a confused mind doesn't buy, un esprit confus n'achète pas. Petite anecdote et petite astuce aussi au passage, quand j'ai rencontré mon copain, il m'a demandé « qu'est-ce que tu fais ?» Alors là, moi j'étais un peu embêtée parce que comment est-ce qu'on explique à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu de l'entrepreneuriat, du digital marketing, etc., ce que je fais, sachant que je fais beaucoup de choses. Et en fait, la manière que j'ai trouvé de lui expliquer, où il a tout de suite compris, c'est que je lui ai raconté une petite histoire très rapidement. Et je lui ai raconté l'histoire de ma cliente idéale. Parce qu'au début, je lui disais, je crée des formations pour les entrepreneurs, pour les aider à trouver plus de clients, se former au marketing et à la communication. Et là, il me regardait, il me disait, ok, je comprends tes mots, mais ça n'a aucun sens pour moi. Opérationnellement, je vois pas ce que tu fais, je vois pas pourquoi les gens auraient besoin de toi. Moi, quand je me suis lancée en tant que freelance, j'avais besoin de personne, j'ai trouvé mes réponses tout seul en ligne, etc. Bref, il comprenait pas qu'il puisse y avoir un besoin. Et du coup, la manière que j'ai trouvé de lui expliquer qui a bien fonctionné, c'est que je lui ai raconté l'histoire de mon client idéal. Je lui ai dit, mon chéri, cite-moi le nom d'une amie à toi. Donc il m'a cité le nom d'une pote à lui et je lui ai dit, imagine, elle se lance demain comme graphiste, mais elle a énormément de mal à trouver des clients parce qu'elle essaye d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître, mais il y a tellement de monde qu'elle ne sait pas quoi poster, quoi faire. Elle a l'impression que tout le monde fait du meilleur travail qu'elle, elle manque un peu de confiance en elle et surtout elle se sent complètement perdue. Parfois elle t'envoie des messages pour te demander des conseils, mais toi tu lui donnes des petits bouts de conseils par-ci par-là, mais ça n'aide pas vraiment et du coup elle est un peu paumée. Et bien généralement, ton amie, c'est là qu'elle vient me voir parce qu'elle a besoin que quelqu'un la prenne par la main et lui donne le plan d'action de A à Z pour développer son entreprise. Et là j'ai vu dans ses yeux qu'il a capté. Donc si à un moment vous avez un métier un peu complexe ou un métier qui sort des métiers globaux que les gens connaissent, et souvent c'est votre cas si vous écoutez ce podcast-là, n'hésitez pas à raconter une histoire. Racontez l'histoire de votre client idéal. Comment il se sent, qu'est-ce qu'il traverse et comment vous vous l'aidez. Généralement ça, les gens accrochent toujours. Donc premier point à checker, c'est est-ce que ce que vous proposez est clair ? Non seulement pour votre client idéal, donc il faut lui parler avec des mots qu'il comprend. Si c'est un client qui est très débutant, il faut lui parler avec des mots très débutants. Si c'est un client qui est très expérimenté, lui parler avec le vocabulaire qui va bien. Deuxième chose, et surtout, est-ce que vous êtes capable aussi d'en parler à de parfaits néophytes ? Parce que ces personnes-là peuvent devenir prescripteurs, les gens de votre entourage peuvent vous recommander. Donc c'est important aussi que eux comprennent ce que vous faites et sachent l'expliquer à leur tour autour d'eux. Deuxième raison pour laquelle certains entrepreneurs n'arrivent pas à vendre, même s'ils ont l'impression de faire tout ce qu'il faut, c'est que leurs offres et leurs tarifs ne correspondent pas à leur clientèle. Celle-là, elle est un petit peu dure à accepter et à avaler, désolé pour ça, mais souvent c'est le cas. Souvent, on crée des offres qui ne sont pas adaptées à notre clientèle. Qu'est-ce que j'entends par là ? En termes d'habitude de consommation, votre client idéal, en tout cas votre client cible, il a certaines habitudes. Par exemple, si moi je suis une grande consommatrice de thé, je vais avoir l'habitude d'acheter du thé. Alors soit je vais l'acheter en grande surface, soit je vais l'acheter dans une chaîne spécialisée que j'aime, soit je vais l'acheter auprès d'un petit producteur, mais j'ai acheté mon thé en sachet, et puis chez moi j'ai la théière qui va bien, et puis la petite pince à thé, etc., etc. Mais si demain quelqu'un me vend du thé liquide à dissoudre avec une cuillère dans l'eau, est-ce que ça va correspondre à mes habitudes ? Est-ce que ça va correspondre à la manière dont j'aime consommer le thé ? Il y a fort à parier que je regarde ce truc et que je me dise ça a l'air hyper chelou, ça a l'air hyper chimique, c'est pas vraiment mes habitudes de consommation. Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter du thé qui se dissout dans l'eau à la petite cuillère ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais quand on crée une offre et qu'on la fait de manière inédite, en se disant « Ouais, j'ai créé une super offre, personne n'a jamais fait un truc comme ça, je suis le seul et du coup ça va trop bien marcher », bah pas toujours, parce que si ça emmène son client trop loin de ses habitudes de consommation, vous allez avoir beaucoup plus besoin de faire de l'éducation, de l'évangélisation sur c'est quoi votre produit et en quoi c'est tout aussi bien, même si c'est très différent, vs vous caler dans ses habitudes de consommation. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, est-ce que l'expérience que vous offrez avec votre offre, c'est-à-dire votre produit, votre service, est aussi à la hauteur de la personne ? Est-ce qu'elle a envie de vivre ? Donc, première question à vous poser dans cette deuxième catégorie de est-ce que mon offre et mes tarifs correspondent à ma clientèle, c'est que est-ce que mon offre est alignée avec ce que ma clientèle veut vivre en termes d'expérience, s'attend à voir en termes d'habitudes de consommation et peut expérimenter en termes de résultats ? Parce que si, encore une fois, vous vendez une offre, mais vous n'êtes pas capable de délivrer les résultats promis, là aussi, ça va être compliqué de la vendre. Si demain je fais appel à, je sais pas, par exemple, un graphiste pour refaire l'identité visuelle de The Bee Boost, mais que je vois le portfolio de la personne et que je juge selon mes critères et mes goûts à moi que je n'aime pas du tout ce que la personne fait, ce n'est pas du tout à mon goût, bah je ne vais pas acheter parce que ça ne me correspondra pas. Je prends un autre exemple, si quelqu'un demain vend des poupées, mais que les poupées elles sont hideuses et qu'elles sont hyper moches, alors je dis pas qu'il n'y a pas de marché pour ça, mais cette personne aura du mal à vendre parce que ce qu'elle fait ne sera pas jugé comme étant de qualité. Et encore une fois, je dis ça, mais je suis persuadée qu'avec un bon marketing, on peut vendre une poupée très moche. Ok ? Donc première chose. Deuxième chose, toujours dans cette catégorie offre et tarifs, c'est est-ce que les tarifs correspondent à ma clientèle ? Un tarif, il faut comprendre que c'est un moyen de vous rémunérer, mais pas que. Un tarif, c'est aussi un positionnement marketing. Votre tarif communique quelque chose. Un tarif haut, on va tout de suite avoir cette impression de c'est premium, c'est de la valeur, c'est de la qualité, mais c'est pas pour tout le monde. Un tarif très bas, voire même parfois trop bas, peut renvoyer une image de quelque chose de cheap. Si vous avez trouvé un moyen de vendre une voiture neuve qui normalement vaut 30 000 euros, et là la voiture elle est vendue 999 euros par la marque, automatiquement n'importe quelle personne va se dire la deuxième voiture c'est de la merde. Si demain je vous mets deux ordinateurs complètement similaires devant vous, exactement similaires, et que je vous dis l'un vaut 3000 euros et l'autre vaut 200 euros. Automatiquement, dans votre tête, vous allez vous dire celui à 200 euros, soit c'est de la seconde main, soit il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, soit il est moins puissant, soit il a moins de capacité, mais forcément, le prix voudra dire que l'un est meilleur que l'autre. Alors si ça se trouve, c'est exactement le même ordinateur. Donc ça, c'est aussi la puissance des prix. Donc ça ne veut pas dire, et je ne suis surtout pas en train de vous dire qu'il faut baisser vos tarifs, bien au contraire, mais juste est-ce que votre tarif actuel reflète le message, le positionnement, le marketing que vous souhaitez renvoyer. Si vous voulez être quelqu'un premium qui fait de la très grande qualité, qui bosse avec peu de clients, mais qui va dans le détail, etc., soyez cher. Si vous voulez être quelqu'un, au contraire, qui est accessible, qui est pour tout le monde, avec des valeurs de démocratisation, de vulgarisation, de masse, soyez peu cher. Ça, c'est le choix que j'ai fait avec The Big Boost. Donc la question à vous poser, c'est aujourd'hui, qui est ma cible? Quelles sont ses habitudes de consommation? Et ça, on peut le savoir juste en fonctionnant au bon sens. Hein. Je ne vous demande pas de devenir des sociologues, experts, etc. Et surtout, est-ce que mes tarifs sont alignés avec ça? Donc, je récapitule. Le deuxième critère qui fait que certains entrepreneurs n'arrivent pas à vendre alors qu'ils ont l'impression de bien faire et de tout faire comme il faut, c'est parce que parfois leurs offres et leurs tarifs ne correspondent pas ni à leur clientèle, ni au positionnement qu'ils souhaitent avoir. Troisième critère qui fait que certains entrepreneurs n'arrivent pas à vendre alors qu'ils font tout comme il faut, c'est qu'ils ont peur de se mettre en avant et ils n'osent pas communiquer. Et j'aime beaucoup cette citation de Stuart Britt qui nous dit « Pour une entreprise, ne pas communiquer, c'est comme faire de l'œil à une fille dans le noir. Vous savez ce que vous faites ?» Mais personne d'autre ne le sait. Je répète la citation, elle est chouette. Stuart Britt qui dit « Pour une entreprise, ne pas communiquer, c'est exactement comme faire de l'œil à une fille dans le noir. Vous savez ce que vous faites, mais personne d'autre ne le sait. » La question aujourd'hui que je vous pose, c'est est-ce que les gens savent ce que vous faites? Est-ce que vous communiquez? Il est de votre responsabilité en tant que chef d'entreprise de communiquer sur votre business, que ce soit via les réseaux sociaux, votre site internet, de la publicité, des événements, du networking, que sais-je. Vous trouvez les moyens qui vous correspondent, qui correspondent à votre audience, votre cible, etc. Mais il faut bien comprendre que c'est votre job d'être visible et que c'est votre job de communiquer. Et il n'y a pas de « c'est au client de vous trouver ». Et il n'y a pas de « c'est la faute des algorithmes ». Il n'y a pas de « ah gna gna, j'ai pas envie, je me trouve des excuses, etc. » Ça fait partie de votre boulot de chef d'entreprise. Alors certes, ce n'est pas toujours cool. C'est pas le job parfois qu'on préfère, le fait de se rendre visible, de communiquer, de parler de soi, de se vendre, etc. Malheureusement ou heureusement, ça fait partie de votre rôle. C'est sur la fiche de poste de chef d'entreprise. Et très 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 souvent, c'est là où ça coince, de ce que j'observe chez ceux d'entre vous qui communiquent avec moi, par exemple au quotidien sur Instagram, etc. C'est que soit vous avez peur de vous mettre en avant et de communiquer, ou alors vous le faites pas assez ou pas de la bonne manière. Ou alors, et là j'arrive à mon quatrième critère, vous avez peur de vendre. Vous avez peur de vous vendre. Vous avez peur de passer pour des vendeurs de tapis. Vous avez peur de déranger. Vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur de vous prendre un refus. En fait, vous mettez des peurs, vous projetez des choses sur l'acte de vente qui font que ça devient une espèce de monstre géant qui vous terrorise là où c'est une simple action qui relève de notre responsabilité de chef d'entreprise. Et moi, je suis complètement pour le fait de désacraliser et de dédramatiser la vente. La vente fait partie de votre job. Encore une fois, c'est une petite ligne sur la lettre de mission, c'est une petite ligne sur la fiche de poste quand on devient entrepreneur. Vous êtes responsable de votre système de vente. Vous êtes responsable du fait de trouver vos clients. Et il faut travailler sur cette peur de vendre. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de dédramatiser. Vendre, se faire, entre gros guillemets, rejeter, avoir des refus, avoir des noms, avoir des gens qui nous, entre guillemets de nouveau, rejettent, avoir des gens qui ne répondent pas, bah c'est pas grave, tout le monde expérimente et ça fait partie du deal. Et le jour où vous allez apprendre à détacher la valeur et l'estime que vous portez à vous-même et que vous portez à votre travail de la réaction des gens en face, vous allez voir que tout va devenir plus simple. Pour ça, je vous recommande l'épisode 170 de ce podcast, Apprendre à aimer la vente. On creuse vraiment ce sujet si vous pensez ou si vous avez la sensation que c'est quelque chose d'un peu sensible chez vous, que vous avez besoin de travailler ou envie d'aller creuser ce sujet-là. Épisode 170, je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast. Donc, quand on a peur de vendre, évidemment qu'on n'arrive pas à vendre. Et quand on a peur de vendre, évidemment qu'on va s'empêcher de vendre. On va trouver plein d'excuses pour ne pas vendre. On va s'engager dans ce que j'appelle la procrastination active, c'est-à-dire qu'on va trouver plein d'autres choses à faire, sauf ce qui est important, c'est-à-dire vendre, prospecter. Donc on va peaufiner notre identité visuelle, notre logo encore et encore et encore. On va créer plein de contenus, on va peaufiner notre offre, on va se projeter dans notre vision, on va retravailler encore. Et puis quand on aura terminé tout ça, eh ben on va décider qu'on va tout recommencer parce que finalement on n'est plus vraiment content et qu'on a envie de changer notre identité visuelle et que, oh bah zut alors, il va falloir changer tout le compte Instagram et tout le site internet. Et en fait, c'est un cercle sans fin. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cercle sans fin? C'est qu'on est dans notre zone de confort, on est dans une situation où on retravaille sur les choses qu'on a déjà faites ou qu'on connaît et qui sont confortables parce qu'on n'est pas obligé de vendre, on n'est pas obligé de se montrer vraiment, on n'est pas obligé de communiquer, on n'est pas obligé de prospecter. Et du coup, c'est beaucoup plus confortable de bosser et de rebosser là-dessus que de vraiment s'atteler aux tâches qu'on repousse parce qu'elles nous font peur, mais qui ont vraiment le potentiel de faire décoller notre business. Et ça, je le vois, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc une bonne question à vous poser là, c'est dans quelle loop, dans quelle boucle répétitive, est-ce que vous êtes actuellement enfermé et qui fait que votre business ne passe pas à l'étape supérieure? Ok, Cinquième critère, cinquième raison qui font que certains entrepreneurs n'arrivent pas à vendre alors qu'ils font tout ce qu'il faut, c'est que ces personnes-là n'inspirent pas confiance à leurs potentiels clients. C'est bête à dire, mais parfois il y a des prestataires de services ou des vendeurs qui n'inspirent pas suffisamment confiance à leurs clients et donc les clients n'achètent pas ou alors se montrent très frileux, très résistants. Pour qu'un client achète chez vous, il faut qu'il soit convaincu de trois choses. La première, c'est que il va avoir les résultats qu'il est venu chercher, que ce soit les résultats d'un accompagnement, un rendu en termes de délivrables ou alors un produit physique. Il faut qu'il soit persuadé qu'il peut avoir confiance en vous et en votre business, c'est-à-dire en la qualité de votre travail, en votre attitude, en votre professionnalisme, en votre capacité à respecter les deadlines, etc. et en votre capacité à mener le projet. Et ensuite, il faut qu'il ait les moyens financiers, bien évidemment. Alors très souvent, les gens disent « non, mais j'ai pas l'argent, etc. » Si quelqu'un vous dit « j'ai pas l'argent », alors que vous avez quand même contacté et qu'il connaissait grosso modo votre rente de tarif en amont, c'est très probable que le point 1 ou 2 ne soit pas 100% validé de son côté et qu'il se réfugie derrière le coût pour justifier ça. C'est-à-dire qu'il est très probable que soit il n'est pas certain d'avoir les résultats qu'il est venu chercher, soit quelque chose ne lui donne pas 100% confiance en vous, en votre business. Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est la réalité. Ça ne veut pas dire encore une fois que vous n'êtes pas capable de délivrer des résultats ou que vous n'êtes pas professionnel ou que vous ne faites pas du bon travail. C'est juste que dans ce que vous avez mis en place en termes de communication, d'attitude, de discours, il y a des choses qui lui ont mis le doute. Évidemment, il y aura toujours des gens qui vous diront « c'est trop cher, j'ai pas les moyens ». Il y a toujours des touristes qui vous contactent parce qu'ils pensent que ce que vous faites vaut 50€ alors que ça en vaut 3000. Pourquoi pas ? Mais si vous vous retrouvez à un moment à avoir une majorité de personnes qui sont comme ça, qui vous contactent avec des volontés de tarifs complètement démentielles, c'est que quelque part, quelque chose dans votre communication soit attire cette cible-là et ces gens-là. Donc ça veut dire que votre communication ne reflète pas vos tarifs. Et encore une fois, on se souvient, le tarif est un positionnement marketing aussi. Soit quelque chose dans votre communication, dans votre discours, lui sous-entend que ce que vous faites n'a pas la valeur de ce que vous vendez. Ça peut être très subtil, ça peut être un branding, ça peut être un vocabulaire, ça peut être la manière dont vous parlez de vos offres, ça peut être comment construire votre site internet, mais à un moment, visuellement, de manière imperceptible, complètement inconsciente, quand on visite le site internet d'une entreprise, on se fait assez rapidement une idée de est-ce que c'est premium et cher ou est-ce que c'est cheap. Alors, bien sûr, il y a tout un spectre entre ces deux options-là, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et qu'est-ce qui peut faire du coup qu'un client n'a pas vraiment 100% confiance ou trouve que vous n'inspirez pas confiance ? Par exemple, s'il n'y a pas de preuve sociale, s'il n'y a pas de témoignage, que ce soit des témoignages de vrais clients, que ce soit des témoignages d'études de cas, que ce soit juste des screenshots de commentaires, de retours agréables que vous avez reçus, même sur du gratuit. Ça, on peut tout à fait s'en servir quand on commence et qu'on n'a pas du tout de preuve sociale parce qu'on n'a pas encore eu de client. On peut s'appuyer sur juste les retours positifs sur le gratuit de ce qu'on a fait. Autre exemple, c'est si vous ne mettez pas avant votre expertise, votre parcours, tous ces éléments qui vont vous rendre légitime. Et chacun d'entre vous a des éléments qui le rendent légitime. Que vous débutiez tout juste, que vous ayez des diplômes ou non, que vous ayez beaucoup d'expérience ou non, vous avez des choses qui vous rendent légitime. Mais ça, il faut les identifier et il faut savoir les mettre en avant. Troisième raison qui fait qu'un client pourrait trouver que vous n'inspirez pas confiance, c'est le soin que vous apportez à votre expérience client. Entre quelqu'un qui a vraiment réfléchi son parcours client, entre le moment où vous contacte et le moment où vous faites par exemple un appel découverte, est-ce que les mails sont clairs? Est-ce qu'il y a un lien pour prendre rendez-vous? Est-ce qu'il y a les petits rappels? Est-ce que les choses sont bien cadrées, bien carrées, bien guidées? Ou est-ce que c'est un peu à l'arrache où vous convenez vite fait sur Instagram d'un rendez-vous et vous envoyez le lien du Zoom 3 minutes avant? Là encore, vous ne renvoyez pas la même image à votre client et votre client peut être rassuré ou non s'il sent que vous maîtrisez, que vous avez les process et que lui, il est encadré. Et ensuite, dernière chose, et il faut la citer, pareil, c'est pas toujours agréable à entendre, mais ça existe, c'est que parfois, certains clients n'achètent pas parce que l'attitude dégagée par l'entrepreneur devant lui n'est pas assez professionnelle, ou alors il y a une attitude assez négative. Imaginez-vous, si vous rentrez dans un magasin avec l'intention d'acheter quelque chose, mais vous commencez à vouloir parler à la vendeuse, elle parle à sa collègue, elle mâche un chewing-gum, elle est à moitié avachie sur son comptoir, elle vous jette un coup d'œil, elle vous dévisage de haut en bas comme si elle analysait la manière dont vous êtes habillé. Vous avez qu'une envie, c'est de partir, vous avez qu'une envie, c'est de prendre les jambes à votre cou et de partir. Parce qu'il y a une manière dont votre client a envie d'être traité, il y a une manière dont on a tous envie d'être traité, et même si on a envie de dépenser notre argent, si l'attitude de la personne en face nous repousse, on va partir et on va aller acheter autre part. Donc encore une fois, ça c'est un cas assez exceptionnel. Je ne le rencontre pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé de me retrouver face à des prestataires où dans leur attitude, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Donc moi, ça a été très clair tout de suite. Ça a été, si tu ne veux pas mon argent, je ne te le donne pas, il n'y a pas de problème. Donc il faut aussi soigner son attitude, que ce soit son attitude personnelle ou même son attitude en ligne sur est-ce que j'inspire confiance à mes potentiels clients. Et encore une fois, qu'on débute ou qu'on soit un entrepreneur expérimenté, on a toujours des leviers à actionner pour pouvoir mettre ça en place. Et ensuite, j'arrive au sixième et dernier critère qui fait qu'un entrepreneur n'arrive pas à vendre alors qu'il a l'impression de faire tout ce qu'il faut, c'est qu'il ne se laisse pas le temps d'avoir des résultats. Encore une fois, on a parlé des overnight success dans l'introduction de cet épisode de podcast. Et là, j'ai envie d'en remettre une couche et de vous dire, c'est pas parce que vous avez créé votre site internet et votre post Instagram depuis 3 heures que c'est en ligne et vous n'avez aucun client que ça veut dire que vous devez changer de métier. On s'entend. Chaque réussite, aussi fulgurante qu'elle paraisse, prend du temps. Littéralement, ça prend du temps. Plusieurs semaines et mois pour les plus chanceux, parce qu'il y a aussi une dimension de chance. Par exemple, si je reprends Madison Beer, où je vous disais, elle a commencé en 2015, elle a explosé en 2023, aujourd'hui elle cartonne en 2024. Mais 2015, un des facteurs qui a aidé à propulser sa carrière, c'est qu'en 2017, une de ses chansons a été repartagée par Justin Bieber, qui lui a donné un début de semblant de notoriété. Donc il y a toujours des petits facteurs chance extérieurs qui peuvent accélérer. Mais dans 99% des cas, il faut plusieurs mois, voire même 1 ou 2 ans, que votre business décolle vraiment. Et toute personne qui vous dira le contraire n'est pas honnête. Il y a des personnes qui décollent en quelques mois, mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus long que ça. Et ce n'est pas parce que ça fait 1 an que vous êtes lancé, que vous ne vivez pas encore pleinement de votre activité, que vous ne faites pas encore 300 000 euros de chiffre d'affaires, que ça veut dire que vous êtes nul ou que ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous êtes juste la norme. Et malheureusement, aujourd'hui, notre société a tendance à glorifier les personnes qui ont des résultats très rapides, en très peu de temps, etc. Et je comprends parce que ça vend du rêve. Et en tant qu'être humain, on aime savoir que c'est rapide et que c'est énorme et que c'est impressionnant, etc. Mais la majorité, la norme, ce n'est pas ça. Et même quand ça arrive à certaines personnes, parce que je fais partie de ces gens qui disent, et c'est la vérité, quand j'ai créé The Bee Boost, j'ai passé 1 an à construire le business en side project parce que j'étais freelance à temps plein. J'ai construit The Bee Boost et l'audience, je travaille dessus le soir et le week-end. Et quand je me suis mis à temps plein dessus en septembre 2019, il m'a fallu 5 mois pour arriver à générer 10 000 euros par mois. Donc on pourrait se dire, ok, Aline, en 4-5 mois, elle a fait ses 10K par mois. Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est qu'avant ça, j'ai quand même été freelance pendant 6 ans dans le domaine du luxe, de la mode et de la beauté. Donc, c'est-à-dire avec des clients grand compte, c'est-à-dire avec des gros TJ même. Donc, c'était pas mon premier business. C'était pas la première entreprise que je crée. J'avais déjà 6 ans de background et la première fois, j'avais pas mis 6 mois hein, à atteindre les 10K. J'avais mis 3 ans. Donc, même pour ces gens qui semblent y arriver du jour au lendemain, la question à se poser, c'est est-ce que vraiment c'est du jour au lendemain ou est-ce que ça fait des années qu'ils galèrent dans l'ombre et puis d'un coup ça décolle? Ou est-ce que c'est des gens qui ont un background, qui ont une expérience passée qui fait que c'était plus facile pour eux? Parce qu'il y avait soit une expérience préalable dans l'entrepreneuriat où ils ont un peu compris les mécanismes et les rouages, ou alors une formation, un ancien métier qui leur a donné des leviers d'accélération. Donc, ma conclusion de cet épisode, et là où je veux en venir, le fond de mon message, c'est que déjà, vendre, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas facile de vendre, même quand on fait un excellent travail et même quand on est une bonne personne. C'est une compétence qui s'apprend de la même manière qu'on apprenait les mathématiques à l'école. Et ben, il faut apprendre à vendre, et même de manière globale, moi je suis persuadée qu'il faut apprendre à être entrepreneur. C'est pas quelque chose de magique, c'est pas un mot, une phrase, un message de prospection qu'on peut bêtement copier-coller qui, pouf, débloque tout. J'aimerais avoir cette baguette magique à vous communiquer pour trouver des clients et arriver à vendre facilement. Je ne l'ai pas. Je la cherche depuis plusieurs années. Je ne l'ai pas trouvée. Donc, vendre, ça s'apprend. Et surtout, vendre et votre capacité à vendre et à trouver des clients, c'est complètement décorrélé à 90% de la qualité de votre travail et de vous, votre valeur en tant que personne. On connaît aujourd'hui des personnes, je ne citerai pas de nom, mais qui sont d'excellents vendeurs, alors qu'ils font pas un travail oufissime. C'est correct, mais c'est pas oufissime. Et à contrario, on connaît tous autour de nous des entrepreneurs qui font un travail géniaux, qui sont des personnes formidables, et pourtant ces personnes, elles ont du mal à trouver des clients. Je vais me donner un exemple qui va chercher encore plus loin. Excusez-moi du parallèle, mais on connaît tous autour de nous une personne qui est célibataire, alors qu'on se dit que c'est la personne la plus extraordinaire du monde, on comprend pas pourquoi elle est célibataire, mais on se dit mais c'est fou, comment ça se fait que t'es célib, t'es trop bien comme personne, n'importe qui serait hyper chanceux de t'avoir, etc. Et à contrario, on connaît tous d'autres personnes, ou une autre personne, qui enchaînent les relations, alors qu'on se dit franchement, pourquoi quoi ? L'injustice quoi ? Qu'est-ce qui fait la différence ? La confiance, la capacité à se vendre, à se mettre en avant, à tester, à y aller, à oser se mettre parfois en danger d'échouer, en danger d'être rejeté. J'ai envie de dire, vendre, c'est un petit peu pareil. Le fait que vous vendiez ou non ne veut rien dire sur votre légitimité en tant qu'entrepreneur et la qualité de votre travail et la qualité de vous en tant que personne. C'est juste le reflet de vos compétences. Est-ce que vous savez vous vendre ou non ? Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui se développe, quelque chose qui s'apprend et que tout le monde, peut le faire. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'entrepreneurs dont je fais partie qui ont créé des programmes business qui sont là pour accélérer ce travail pour vous, vous apprendre à vendre, à aimer ça et les bons leviers et mécanismes pour le faire. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram et à me dire est-ce que ça a résonné, est-ce que ça vous a parlé ou alors pas du tout. Quelle est votre relation avec la vente? J'ai hâte d'échanger avec vous à ce propos. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde !